c'est à mon tour de vous souhaiter une très bonne nouvelle année dans le Seigneur. Et qui dit nouvelle année, dit année terminée aussi, ça paraît logique, je ne suis pas le premier à vous le dire, je pense. L'année 2018 est finie. Notre première année sur Angoulême avec Anaïque, mon épouse, est terminée. On est arrivé à deux, maintenant on est trois. Et ça a été l'occasion, avec le conseil de l'Église notamment, de faire un bilan de cette année passée. Notre union d'Église nous a demandé notamment de faire un bilan de cette première année. Et même si tout n'est pas simple, nous devons beaucoup cheminer encore au niveau de notre Église. Plusieurs parmi nous ont souffert durant l'année passée ou sont toujours dans la souffrance à cause de la maladie, du deuil, des difficultés familiales, financières. Plusieurs parmi nous ont une vie, je pense quasiment tous même, tout le monde, une vie loin d'être toute rose. Et notre communauté n'est pas parfaite. Mais, en faisant ce bilan, il nous a fallu quand même reconnaître qu'au niveau communautaire, au niveau de notre Église, eh bien, nous avons été particulièrement bénis durant l'année 2018. Alors pour rappel, dans les grandes lignes un petit peu, voici quelques-uns des moments qui ont marqué cette année 2018 dans notre Église. Tout d'abord, je vais faire mon égoïste. Pour moi, l'année 2018 marque le début de mon ministère dans cette Église. Et Dieu sait si pour mon épouse et moi-même, notre arrivée à Angoulême est une immense bénédiction. Vous êtes pour nous une immense bénédiction. Je ne parlerai que uniquement de ce qui concerne l'Église. J'en ai eu d'autres aussi dans l'année, des bénédictions. Nous avons vécu l'an passé trois baptêmes. Trois personnes ont témoigné de leur vie qu'ils offraient au Seigneur. Nous avons vécu deux parcours alpha, dont un qui est toujours en cours. Une très belle participation au Festival de la BD avec cette exposition sur John Bost, ce pasteur qui a œuvré auprès des plus faibles, des handicapés notamment. Nous avons aussi suivi une formation membre qui a été suivie par plus de 50 d'entre nous. Pour le moment, environ 10 nouvelles personnes ont demandé à devenir membres de notre Église, à témoigner de leur engagement dans notre Église locale. L'année 2018 a aussi vu le lancement de deux nouveaux groupes de maison. 12 personnes de notre Église ont été formées à l'animation de ces groupes de maison pour accueillir et pour édifier continuellement. On a aussi vécu des cultes d'action de grâce, un culte de prière pour les malades avec onction d'huile, un très beau week-end d'Église en octobre. Bref, beaucoup de choses, mais qui ne sont pas pour moi des activités. Pour moi, ces choses sont avant tout des moments où le Seigneur a agi parmi nous et en nous. Si c'était des activités, ce seraient des choses que nous avons faites. Je pense sincèrement que ce sont tout un tas de moments où le Seigneur a agi parmi nous et en nous. Des moments où le Seigneur nous a bénis. Des moments où nous avons désiré rechercher le royaume de Dieu, rechercher sa volonté, entrer dans ce royaume, entrer dans ce que Dieu fait pour le rejoindre dans ses œuvres à lui. Car tout nous vient de Dieu, jusqu'au vouloir et au faire, nous dit l'apôtre Paul. Tout est grâce, ça veut dire, c'est un mot qui veut dire que tout est cadeau gratuit, immérité. Tout est cadeau de sa part, lui qui vient remplir les vases d'argile que nous sommes par un trésor inestimable. Son esprit qu'il répand sur nous, sa vie qu'il nous donne, son pardon qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Alors le début de cette nouvelle année, c'est un temps de bilan, de regard en arrière. Je le répète, tout n'est pas simple. Les membres de notre communauté sont loin d'être épargnés par la souffrance. Mais devant l'œuvre magnifique de notre Dieu également durant l'année passée, bien je ne peux que revenir à l'humilité face à qui est Dieu, à l'émerveillement et la reconnaissance face à son œuvre, à l'adoration également, pour lui dire à quel point il est un Dieu merveilleux. Notre Dieu agit chaque jour en ce monde. Il agit chaque jour dans notre ville. Il agit chaque jour dans notre Église. Il agit chaque jour en nous-mêmes, dans notre cœur. Et par son esprit, il nous appelle constamment à regarder à lui, à le connaître lui, à le suivre lui et à le rejoindre dans ce qu'il fait. Le connaître et le rejoindre. C'est justement là-dessus que j'aimerais m'arrêter un petit peu ce matin. Le connaître et le rejoindre. Voilà qui ferait un beau slogan, je pense, hein, pour cette nouvelle année 2019. En effet, le connaître, parce que Dieu s'est fait connaître. C'est parce que Dieu s'est fait connaître à nous que nous avons pu enfin croire en lui. C'est parce que le Christ est venu à notre rencontre et qu'il a frappé à la porte de notre cœur que nous avons pu l'accueillir dans notre vie, le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. C'est parce que Dieu nous a donné son esprit que nous vivons les fruits de sa présence en nous. C'est parce que Dieu a fait tout cela que nous avons l'assurance, la certitude du pardon, du salut et de la vie éternelle qu'il nous promet dans sa parole. Sa parole qui justement nous affirme par l'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 5 au verset 13, « Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Et plus loin au verset 18, « Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui le mènera à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui ? Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas une éventualité ou une supposition. C'est une certitude. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et malheureusement, trop souvent, par crainte, ou par parfois une mauvaise compréhension de certains textes, je pense, nous pouvons douter de cette certitude. Nous pouvons douter de notre salut. Certains craignent de perdre leur salut, de perdre cette vie éternelle auprès du Père. Mais l'apôtre Jean nous l'affirme comme une certitude. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle et vous ne risquez pas de la perdre. Et pourquoi donc ? Parce que nous serions supérieurs ? Parce que nous aurions un savoir que les autres n'ont pas ? Parce que nos actes, nos œuvres nous feraient mériter ou garder cette vie éternelle ? Non, non et non. Cette certitude ne repose pas sur nous, mais selon ce que nous dit l'apôtre Jean, nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Nous savons bien que nous restons imparfaits. Moi le premier, demandais à ma femme. Nous savons que constamment nous avons besoin de l'aide de Dieu pour le rejoindre dans sa volonté, pour le rejoindre dans ses œuvres. Nous savons bien que nous ne méritons rien, ni d'obtenir, ni de garder ce cadeau précieux de la vie éternelle. Et que si ce cadeau dépend de nous, soit pour l'obtenir, soit pour le garder, nous sommes, reconnaissons-le, bien mal barrés. Mais le salut et la vie éternelle sont une certitude, doivent être une certitude pour le croyant, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Dieu. Dieu qui donne et Dieu qui protège. Il nous protège du diable, nous dit ce texte, qui voudrait à nouveau nous conduire vers la mort. Et il nous protège aussi de nous-mêmes, de nos faiblesses, de nos limites, pour nous garder constamment sur le chemin qui mène à sa vie. Un chemin que nous suivons rarement en ligne droite, mais un chemin sur lequel Dieu nous maintient constamment malgré tout. Nous pouvons avoir la certitude de notre salut grâce à Dieu. Dieu qui se fait connaître, qui nous permet de croire en lui, qui nous permet d'accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur. Dieu qui pardonne, qui sauve et qui protège. C'est ce que nous dit notre texte. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle, car le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence que nous n'avions pas pour que nous connaissions le Dieu véritable et celui qui est né de Dieu, le Fils de Dieu, le protège. Connaître Dieu et le rejoindre. Oui, Dieu nous a donné de le connaître, mais il y a connaître et connaître. Il y a connaître un peu, il y a connaître mieux. Et voici ce à quoi nous encourage cette fois l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. L'apôtre Jean nous le rappelait, si nous croyons en Christ, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous, qu'il s'est fait connaître à nous. Et cette révélation, c'est ce que vient résumer en fait cet épître aux Hébreux. Oui, Dieu nous a fait connaître la condamnation de nos fautes, le pardon qu'il nous offre en Jésus-Christ, le salut qui nous vient de son Saint-Esprit et la vie éternelle qu'il nous promet au retour du Christ. Toutes ces choses sont essentielles à notre foi. C'est cette foi en Christ qui est pour nous l'assurance du salut et de la vie éternelle. Mais lorsque l'Épître aux Hébreux nous appelle à laisser les bases de cet enseignement, ça ne veut pas dire les oublier. Ça ne veut pas dire les dénigrer ou les relativiser. Non, cela signifie que sur les fondements solides de notre foi en Christ, sur ces bases solides de notre rencontre et de notre connaissance de Dieu, il nous faut maintenant chercher à le connaître mieux, à le comprendre mieux. Il nous faut tendre vers la maturité de notre foi. Et quelle est donc cette maturité ? À quoi consiste-t-elle ? Eh bien, cette fois, c'est l'apôtre Paul qui nous l'explique. En Éphésiens 2, verset 10, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Connaître Dieu et le rejoindre dans son œuvre, voilà la maturité. Le connaître un peu, c'est bien, mais le connaître mieux nous permet de le rejoindre dans ses œuvres à lui, des œuvres bonnes qu'il réalise chaque jour, il ne nous attend pas heureusement, des œuvres bonnes auxquelles il nous appelle, des œuvres bonnes pour lesquelles il nous a créés, nous dit ce texte, pour lesquelles il nous a sauvés, pour lesquelles il nous a façonnés, des œuvres pour lesquelles nous devons tendre vers la maturité de notre foi. Le connaître et le rejoindre, ou plutôt il faudrait dire le connaître pour le rejoindre, car c'est là notre but. Si certains se posent encore des questions sur le sens ou le but de leur vie, eh bien ce texte que nous avons lu dans Éphésiens 2 vous donne la clé. Dieu veut vous sauver pour vous amener à le rejoindre dans ses œuvres bonnes. Le connaître pour le rejoindre. Un beau slogan. Et c'est en fait ce qui va guider toute cette année 2019. Je le souhaite du fond du cœur. En effet, en 2018, beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de suivre l'atelier intitulé « Membres de l'Église du Christ ». Dans cet atelier, nous avons vu l'essentiel de notre foi. Nous avons vu ce que cela signifie être membre du peuple de Dieu, sauvé en Jésus-Christ, et comment cela doit se concrétiser dans un engagement de vie et dans une église locale notamment. Nous avons reposé la base dont nous parle l'Épître aux Hébreux. Eh bien, en 2019, nous allons continuer notre cheminement pour toujours mieux connaître Dieu afin de le rejoindre. Au mois de mars, tous ceux et celles qui le souhaitent pourront suivre l'atelier intitulé « Maturité ». Dans cet atelier, nous parlerons de l'équilibre de vie à trouver pour grandir constamment dans la connaissance et la relation à Dieu. Nous parlerons aussi concrètement des outils qui nous y aident individuellement, mais aussi comment y travailler en communauté entre frères et sœurs en Christ. Cet atelier vise à nous encourager et à nous aider à toujours mieux connaître Dieu. Mais cette maturité, mieux le connaître, c'est avant tout afin de le rejoindre dans ses œuvres à lui. Et durant les mois de mai et juin, avec ceux et celles qui en seront là dans leur cheminement, nous commencerons une réflexion et un discernement autour de l'atelier intitulé « Ministère », ce qui signifie « service ». Un atelier dans lequel nous voulons réfléchir à comment rejoindre Dieu et à quelles sont ces œuvres bonnes pour lesquelles Dieu a façonné différemment chacun et chacune d'entre nous. Quelles sont ces œuvres bonnes pour lesquelles Dieu a créé chacun et chacune différent, mais ces œuvres qu'il a préparées à l'avance et auxquelles il nous appelle. Et ça ne sera pas fini. En effet, comme le but premier de l'Église du Christ, c'est de partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, eh bien, en octobre prochain, lors du week-end de rentrée de notre Église, je vois loin, eh bien, nous suivrons ensemble l'atelier intitulé « Mission, le défi du témoignage ». Mieux le connaître pour pouvoir le rejoindre dans ses œuvres. Tendre vers la maturité de notre foi pour nous mettre à son service et témoigner du salut en Jésus-Christ. Maturité, ministère, mission ou témoignage. C'est ce qui va venir rythmer notre année 2019. C'est le cheminement que nous vous proposons pour ensemble mieux connaître Dieu afin de le rejoindre dans ses œuvres. Alors 2018 fut une année bénie pour notre assemblée. Prions donc sans cesse pour que le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire en cette nouvelle année, conformément à ses projets pleins d'amour. Amen. Et pour finir cette prédication, j'aimerais vous inviter non pas à chanter un chant, comme on le fait souvent, j'aimerais vous inviter à prier ensemble, une prière dans laquelle nous allons pouvoir exprimer tout ce dont nous avons parlé. Une prière dans laquelle nous allons pouvoir adorer Dieu, que ton nom soit sanctifié. Une prière dans laquelle nous allons pouvoir exprimer à Dieu notre désir de voir ses œuvres se réaliser et le rejoindre dans ses œuvres. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Suis-je prêt à faire cette volonté et à l'y rejoindre ? Une prière dans laquelle nous allons également demander à Dieu de continuer à nous protéger et à nous bénir. Donne-nous notre pain de ce jour. Une prière dans laquelle nous allons aussi garder cette humilité. Nous ne méritons rien. Sans lui, nous ne valons pas mieux qu'un vase vide. Pardonne-nous nos offenses. Et nous-mêmes, Seigneur, nous voulons briller dans ce monde comme tu as brillé pour nous. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une prière dans laquelle nous allons demander à Dieu de continuer à nous protéger à la fois de l'ennemi, mais aussi de nous-mêmes, de nos mauvais côtés, de nos limites. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Une prière dans laquelle nous allons affirmer notre foi dans la seigneurie de notre Dieu, le seul et unique vrai Dieu en ce monde. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alors je vous invite à vous lever pour prier ensemble cette prière que le Seigneur nous a laissée et nous a apprise, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.